Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Retour à Rome, le pape François a remercié la Vierge ce mardi pour le succès de son voyage en Terre Sainte, un pèlerinage de 3 jours, rythmé par d'intenses moments de prière, par des gestes forts, des accolades émouvantes, riches en symboles, porteuses d'espérance. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Jérusalem, tout comme le journaliste du Figaro, Jean-Marie Guénoir, qui dressera lui aussi un premier bilan de ce pèlerinage. Retour dans cette émission également sur le traditionnel échange qui a eu lieu lundi soir dans l'avion entre le pape et les journalistes. 11 questions, 45 minutes d'entretien. Le célibat des prêtres, la réforme de la curie, il n'y a pas de tabou pour le pape François. Et puis enfin, nous donnerons la parole à Jean-Marc Tiki, membre associé du Centre d'anthropologie religieuse européenne à l'EHESS à Paris. Il nous racontera le retour du pape Pie VII à Rome après plusieurs années de détention à Savone et Fontainebleau. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. Son avion s'est donc posé à 23h lundi soir sur le tarmac de l'aéroport de Ciampino à Rome. Le pape François est de retour au Vatican. Pour la 9e fois depuis le début de son pontificat, il s'est rendu ce mardi matin dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Il y a remercié la Vierge pour le bon déroulement de son voyage en Terre Sainte, lui confiant aussi les fruits éventuels de ce déplacement apostolique. Le pape n'avait aucun autre engagement. Ce mardi, un peu de repos mérité au terme d'un voyage particulièrement dense en Terre Sainte. 20 étapes, 14 discours. En Jordanie, à Amman, puis à Béthanie, au nord du Jourdain, à Bethléem, au pied du mur, et sur la place de la Mangeoire, à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, et au Cénacle, sur l'esplanade des mosquées, au mur des Lamentations, ou à Yad Vashem. Le pape souhaitait ce pèlerinage afin de célébrer la rencontre historique il y a 50 ans entre Paul VI et Athénagoras, afin de raviver la flamme de l'écuménisme avec l'actuel patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier. Il y est parvenu, mais ce ne fut pas tout. Dans un contexte compliqué sur le plan politique, durant ces 3 jours, en des lieux sensibles et chargés d'histoire, le pape François a su poser les mots justes, se montrer attentif au sort de chacun. Notre envoyé spécial à Jérusalem, Bernard de Cotigny.
Le pape François et sa théologie de la main posée, à Bethléem sur le mur de la honte qui divise Israéliens et Palestiniens, la main posée à Jérusalem sur le mur occidental, lieu de prière et de recueillement, pour ensuite enlacer ses deux amis, juifs et musulmans, emmenés dans ses bagages pour ce voyage en Terre Sainte. L'image de ces 3 hommes se tenant par les épaules en cet endroit fera date. Elle pourrait s'avérer prophétique. La main de François rallumant la flamme du souvenir à Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste, plantant un olivier dans le jardin de Gethsémani et plongé dans les eaux du Jourdain en Jordanie. La main du pape serrant celle du patriarche Bartholomée pour descendre de l'estrade où ils se sont donné l'accolade au Saint-Sépulcre, comme leurs prédécesseurs Paul VI et Athénagoras il y a 50 ans. La main de François posée sur le tombeau de Jésus, la main posée sur le visage de cet enfant malade. Le pape, à chaque étape, a touché les pierres et les cœurs et nous a aussi parlé de cette nécessité d'aller de l'avant sur le chemin de l'unité entre chrétiens. C'était le but premier de ce pèlerinage en Terre Sainte. Catholiques et orthodoxes ont beaucoup avancé, mais il reste à faire. Une déclaration commune a été signée qui nous le rappellera, mais d'ores et déjà, que les frères séparés s'unissent pour défendre la vie de bout en bout, la famille basée sur le mariage, pour protéger l'environnement de notre planète mise à mal. Le voyage était un pèlerinage, et certes, chants et encens n'ont pas manqué, mais venir jusqu'ici, c'est savoir aussi que chaque pas que vous posez et chaque parole prononcée seront suivies d'effets. Comme cette invitation du pape François au président Mahmoud Abbas et Shimon Peres à venir le rejoindre au plus vite chez lui, au Vatican. Les deux hommes ont dit oui, nous viendrons. Un nouvel espoir pour relancer des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens à nouveau dans l'impasse. Mais ils ne viendront pas sans se rappeler tout ce que le pape nous aura dit durant ces 3 jours. Non à la haine, à la suspicion, à la guerre, au terrorisme, à l'antisémitisme. Oui à l'amitié, à la fraternité, à la simplicité, au partage. Tant de monde souffre en ce Proche-Orient, et depuis trop longtemps, quand plus personne n'y croit, un homme en blanc est venu jusqu'ici pour dire « Reparlons-en, il est grand temps ». De Jérusalem, Bernard de Cotigny pour Radio Vatican.
Juifs, musulmans et chrétiens invités par le pape François à être des artisans de paix au quotidien. François qui a encouragé les Palestiniens à regarder vers l'avenir et non le passé. Les Israéliens à faire de Jérusalem vraiment une ville de paix, de rendre les lieux saints accessibles aux croyants. La communauté internationale, elle aussi, a été interpellée par le pape parce qu'elle laisse des enfants privés de nourriture, de médicaments, qu'elle les laisse se battre ou travailler. Prions pour les criminels qui vendent des armes à des pays en guerre, des mots, un style. Le journaliste du Figaro, spécialiste des questions religieuses, qui était lui aussi en Terre Sainte, Jean-Marie Guénois, dresse à son tour un bilan de ce voyage apostolique en Terre Sainte.
J'en ai fait un certain nombre des voyages du pape, mais celui-ci est tout à fait original, décoiffant, dans la mesure où il y a eu cette initiative de paix imprévue, qui apporte comme un souffle nouveau sur la scène internationale, remet en quelque sorte le Saint-Siège, le Vatican, l'Église catholique sur l'échiquier géopolitique, et ce qui fait que ce voyage, outre évidemment la personnalité du pape François, est tout à fait nouveau, je pense même inaugure d'une certaine manière la portée du pontificat.
Ce voyage ne devait pas être politique, il l'est devenu, mais de très belle manière.
Oui, mais ça c'est le côté un peu fourbe du pape, comme il dit, c'est-à-dire je suis un peu assez malin, et il nous avait effectivement dit cela sera strictement religieux, c'était strictement politique et religieux, ou religieux et politique, et ici tout est mélangé. Mais ce qui est extraordinaire à noter, c'est la façon dont ce pape aborde ces sujets. Je crois qu'effectivement, il tend beaucoup de mains, il sourit, il est aussi très déterminé. C'est un homme têtu qui voit un objectif, en l'occurrence la paix, et donc il marche, il avance, envers et contre tout, envers et contre tous, pour faire bouger des lignes, changer des habitudes, aider les gens à voir peut-être les problèmes d'une autre façon. Et là, cette méthode, qui est une méthode très humaine, au fond, quand il dit au président israélien et au président palestinien, venez à la maison, enfin c'est ça, venez à la maison, c'est tout juste, il leur dit pas, on va faire une pasta, et puis on va discuter un peu de tout ça, et puis on va prier chacun, dans sa religion. C'est ça, c'est quelqu'un qui parle au cœur, parle à l'homme, mais d'une manière tellement simple, tellement directe, qu'il fait mouche. Et le voyage arrive à un moment, finalement, où tout le monde, ou plutôt personne, n'y croit. Au fond, ce voyage a peut-être réveiller la Terre Sainte d'une certaine habitude et d'une certaine désespérance face à une sorte de fatalité de la guerre. Lui dit non, il n'y a pas de fatalité de la guerre et du conflit. Avançons, luttons contre les discriminations. Et tout ça, ça fait mouche, ça porte, ça fait réfléchir, en tout cas même les plus endurcis.
Un voyage est fait aussi de gestes, parfois inattendus, en tout cas pas prévus. Il y en a eu plusieurs. Le pape qui s'arrête justement au pied de ce mur de la honte, de séparation, de sécurité. Le pape qui embrasse ses deux amis en face du mur occidental, ses deux amis, un rabbin et un professeur musulman. Ce sont aussi des images dans une société de l'image qui resteront.
Oui, j'étais très frappé, peut-être plus encore, par l'image du pape avec ses deux amis, le juif et le musulman, s'embrassant, trois hommes qui se tiennent les épaules, qui se soutiennent, qui s'épaulent devant ce mur, symbole quand même de cette religion qui est mère, matrice du christianisme, et puis par éclectisme ensuite de l'islam. Alors on va dire, c'est bien gentil, ça n'est qu'une image, mais non, je crois que ça va beaucoup plus loin. Parce que c'est peut-être aussi une autre façon d'envisager les choses. Nous sommes justement dans une société qui se pose énormément de questions. Il suffit de se référer aux résultats des récentes élections européennes. C'était déboussolé. Lui, parce qu'il est justement non-européen, apporte ce charisme de l'homme, ce charisme du cœur, ce charisme de l'amitié, et démontre que l'on peut être ami, proche, construire, bâtir justement des portes dans les murs, en l'occurrence, avec des juifs et des musulmans. C'est une formidable démonstration. Donc ce geste-là, moi, personnellement, m'a plus frappé que le geste de la journée de dimanche où le pape, effectivement, s'arrête devant le mur côté palestinien. Il ne l'aurait pas fait, tout le monde se serait dit, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Je crois que c'était un peu attendu, c'était quand même relativement préparé, même si ça avait l'allure d'une surprise. C'était une très belle image, évidemment, mais elle était tellement attendue, celle-là, qu'on se serait étonné qu'elle n'existe pas. Alors que l'image de François avec le rabbin Abraham Skorka et son ami musulman, voilà une image tout à fait, je dirais presque, elle est presque scandaleuse. Et je pense qu'elle va être scandaleuse pour un certain nombre de juifs. Elle va être scandaleuse pour un certain nombre de chrétiens, elle va être scandaleuse pour un certain nombre de musulmans, mais elle est peut-être prophétique.
Les gestes les plus authentiques sont ceux auxquels on ne réfléchit pas. Dans l'avion qui le ramenait à Rome, le pape a affirmé que aucun de ces gestes n'avait été pensé en amont, sinon peut-être cette invitation lancée au président israélien et de l'autorité palestinienne. François aurait aimé que la rencontre se tienne en Terre Sainte. Elle aura finalement lieu début juin pour des questions de logistique, a-t-il dit au Vatican. Il ne s'agit pas de médiation dans les négociations, mais plutôt d'une rencontre de prière, a précisé le pape François aux journalistes. À bord du vol El Al qui le ramenait à Rome, la conférence de presse a duré un peu plus de 45 minutes. 11 questions ont été posées sur le plan œcuménique. François a insisté sur l'importance d'une date de Pâques commune, pragmatique mais prudent sur le célibat des prêtres notamment. François n'a pas fermé la porte à l'ordination d'hommes mariés car il ne s'agit pas d'un dogme mais d'une règle de vie. En revanche, ce n'est pas d'actualité. Quant au synode d'octobre prochain au Vatican, il ne faut pas le limiter à la question des divorcés remariés. Il est consacré aux problèmes en général, aux richesses aussi de la famille, cas par cas dans le monde entier. Pie XII sera-t-il béatifié? La cause est ouverte, mais il manque encore un miracle. François qui a également répondu avec franchise sur les problèmes liés à la pédophilie dans l'Église ou sur la réforme de la curie, le compte-rendu de Cyprien Viette.
Le pape a répondu avec clarté et fermeté sur plusieurs sujets qui ont secoué la vie de l'Église ces derniers mois. Sur la question des abus sexuels commis par des prêtres sur des mineurs, François a rappelé la ligne fixée par Benoît XVI, tolérance zéro. Pour lui, un prêtre qui viole un enfant trahit le corps du Seigneur, c'est comme faire une messe noire, dit-il. Il annonce aussi qu'il recevra des victimes irlandaises et allemandes de prêtres pédophiles lors d'une messe à Sainte-Marthe la semaine prochaine. Concernant la Banque du Vatican, Lior, le pape précise que 1600 comptes ont été fermés car ils ne correspondaient pas aux critères pour cette banque réservée aux religieux et au personnel du Vatican. François compte bien s'appuyer sur le secrétariat pour l'économie pour assainir les finances vaticanes. Sur la question des 15 millions d'euros qui, selon la presse italienne, auraient été détournés par le cardinal Berton, l'ancien secrétaire d'État du Saint-Siège, le pape a répondu que le problème était à l'étude, mais sans conclusion définitive pour le moment. Interrogé plus largement sur la réforme de la curie, le Saint-Père a répondu que le Conseil des huit cardinaux poursuivait son travail sur la constitution Pastor Bonus. Faisant allusion aux résistances internes, le pape a estimé que c'était inévitable dans ce type de réforme. La persuasion est donc très importante, rappelle-t-il, mais même si tous les résultats ne se voient pas encore, je suis content du travail de la commission, estime François.
C'était le compte-rendu de Cyprien Viette. Et puis lors de cette conférence de presse, le pape François a également confirmé la tenue d'un quatrième voyage apostolique à l'étranger. En janvier prochain, il se rendra au Sri Lanka pour 2 jours, puis aux Philippines, dans les zones touchées par le typhon Yolanda. Ce sera la troisième visite d'un pape dans l'archipel des Philippines après Paul VI en 1970 et Jean-Paul II en 1981 et 1995. Mais avant le Sri Lanka et les Philippines, eh bien un autre déplacement en Asie. Le pape sera cet été en Corée du Sud du 13 au 18 août prochain pour les journées de la jeunesse asiatique. Entreprendra-t-il des actions alors pour aider les catholiques qui sont en Corée du Nord ou encore en Chine? Eh bien, répond-il, les évêques et le Saint-Siège travaillent dans la discrétion pour aider ces pays, les chrétiens de ces pays, mais ce n'est pas une chose facile. Nous devons nous rapprocher avec beaucoup de prudence. Le pape a déploré le fait que la liberté religieuse n'existe pas dans nombre de pays du monde, pas seulement dans certains pays d'Asie, soulignant enfin qu'aujourd'hui, il y a plus de martyrs qu'au premier temps de l'Église. Et avant de refermer cette large page consacrée au voyage du pape en Terre Sainte, cette nouvelle que l'on a appris en fin de soirée lundi soir, un incendie d'origine criminelle s'est déclaré dans l'une des principales églises catholiques de Jérusalem sur le mont Sion, dans l'église de la Dormition pendant la visite du pape François. Une personne aurait mis le feu au livre d'or signé par les pèlerins, brûlant des croix de bois. Une enquête a été ouverte. Il faut rappeler que dans la nuit de samedi à dimanche, 26 juifs ultra manifestant leur colère contre la venue du pape François avaient été interpellés sur le mont Sion, où se trouve le cénacle, le lieu du dernier repas du Christ pour les chrétiens et du tombeau de David pour les juifs. Si vous souhaitez de plus amples informations sur ce voyage ou sur une des étapes de ce voyage du pape en Terre Sainte, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.radiovaticana.va et puis pour les images, allez sur notre page Facebook, c'est notre conseil Radio Vatican en français. Achevons enfin cette émission par un bicentenaire, celui du retour du pape Pie VII à Rome après plusieurs années de détention à Savone et Fontainebleau. Le souverain pontife a payé ainsi son opposition aux visées de l'empereur Napoléon. Ce dernier, acculé sur le plan militaire, se décide en janvier 1814 à restituer au pape ses états, intégrés en 1809 à l'Empire français. Le 23 janvier, Pie VII quitte donc le château de Fontainebleau, prend la route. Il traverse alors toute la France, passant notamment par le sud-ouest du pays, la Provence, sans trop savoir au début où il allait. Il importait surtout à Napoléon que Pie VII ne tombât pas dans les mains de ses ennemis. Après 4 mois sur les routes, le pape retrouve finalement le 24 mai 1814 sa ville et ses états. Un retour important pour la papauté après une longue absence inédite depuis des siècles. Xavier Sartre revient sur cette entrée dans Rome et sur les conséquences de cet exil pour le gouvernement de l'Église et les états pontificaux avec Jean-Marc Tiki, membre associé du Centre d'anthropologie religieuse européenne à l'EHESS à Paris.
Napoléon s'est emparé de la personne du pape dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809, mais surtout, il avait un mois auparavant privé le Saint-Siège de la souveraineté sur ses états. Et la première chose que fait Pie VII quand il rentre à Rome en 1814, c'est de réaffirmer la souveraineté du Saint-Siège, d'une part sur Rome et d'autre part sur l'Ombrie.
Est-ce que c'est un retour triomphal? Est-ce qu'il est bien accepté par la population qui, malgré tout, a goûté, bon gré mal gré, à une nouvelle administration? Ou bien, au contraire, est-il conspué ou tout au moins accepté silencieusement par la population romaine?
En Italie, il reçoit un accueil absolument triomphal, notamment dans les villes où il est passé, déjà à Savone, mais aussi à Imola, son ancien diocèse, et ce sera exactement la même chose à Rome. En fait, par-delà la venue du pape lui-même, ce que fêtent les Italiens, c'est la fin de l'occupation française en Italie. Murat le voleur, Murat le français, enfin chassé d'Italie, car il faut bien voir que le pape a refusé de répondre favorablement à la demande de Murat, qui lui proposait finalement de rester pape sans recouvrer la souveraineté des états pontificaux. Il a tenu bon, et c'est de ce fait-là qu'il a pu rentrer en triomphateur dans Rome le 24 mai 1814, en ayant obtenu des alliés, et notamment de l'Autriche et d'Angleterre, le rétablissement de la souveraineté pontificale.
Et sur sa manière de gouverner?
D'un côté, le pape a rétabli, si on regarde les premiers grands édits, l'édit de Cézanne par exemple, on ne parle que de restauration. On rétablit la souveraineté pontificale, on rétablit les tribunaux anciens, on rétablit le droit ancien, on abolit le code civil, on fait foin de ce qu'avaient apporté les Français. Mais en réalité, le gouvernement de Pie VII est assez modéré. Par exemple, il ne revient pas sur l'aliénation des biens nationaux. Il ne revient pas sur l'achat des biens nationaux ou des biens d'église qui avait été fait par un certain nombre de personnes.
L'emprisonnement de Pie VII, la fin des états pontificaux, en tout cas pour une période donnée, est-ce que ce n'aura pas tout de même des conséquences pour la suite, pour les pontificats suivants, et notamment celui de Pie IX?
Il est hors de doute que le sentiment national italien s'est trouvé en quelque sorte dynamisé par les proclamations de Bentinck en mars 1814 après son débarquement à Livourne en février, par les proclamations de Murat également, par l'écho qu'aura eu l'idée nationale italienne dans l'opinion publique italienne. Les carbonari qui se sont manifestés sous Léon XII, sous Pie VIII, sous Grégoire XVI, ne sont pas sortis de rien. À côté des gagnants de la restauration, il y a tout un tas de perdants qui restent présents. Et notamment dans la noblesse italienne, dans la bourgeoisie, il y a tout un tas de gens qui considèrent que le retour au modèle de gouvernement antérieur et pontifical n'est pas satisfaisant. Donc je pense que cette période troublée, compliquée, où tout n'est pas en blanc et en noir, a considérablement posé les bases de toutes sortes de transformations qui ne surviendront que progressivement au cours de la fin du premier 19e siècle et du pontificat de Pie IX.
C'était Jean-Marc Tiki, membre associé du Centre d'anthropologie religieuse européenne à l'EHESS. Il était interrogé par Xavier Sartre, un entretien retrouvé sur notre site internet www.radiovaticana.va. Vous y retrouverez évidemment toutes les informations, si vous le souhaitez, toutes les informations sur le voyage du pape en Terre Sainte qui vient de s'achever. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour une prochaine émission.